Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales PACT à Grenoble.
Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Impact, le podcast du laboratoire PACT à Grenoble. Dans cette quatrième saison, nous allons décortiquer ensemble les sciences participatives. Quels en sont les cadres, les expériences à des niveaux locaux ou internationaux?
Dans cet épisode, nous retrouvons un invité de la saison précédente qui a mené deux projets sur les violences conjugales au niveau européen, Improv et Improdova. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment articuler un projet sur un territoire aussi vaste que l'Europe, quels sont les freins et comment fédérer les acteurs. Bonne écoute et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée.
Nous accueillons de nouveau sur le plateau d'Impact Thierry Delpech. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Et je suis comme d'habitude accompagné d'Emilie pour cet épisode.
Bonjour Arthur. Alors Thierry, vous êtes chercheur au CNRS, sociologue, vous êtes spécialiste des questions de droit, de justice, de police, de sécurité. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément de deux projets de collaboration de chercheurs à une échelle plutôt européenne sur l'étude des violences conjugales, avec toutes les difficultés que cela comporte et que posent les collaborations justement sur le triple aspect international, intersectoriel et interinstitutionnel. Des gros mots qu'on va définir plus tard. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous parler de la genèse de ce projet ?
Alors, ce type de projet, alors qu'il heureusement ne présente pas que des difficultés, mais aussi recèle de nombreuses opportunités de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire en dehors de ce type de cadre. Donc, c'est des projets qui naissent toujours à la confluence, en fait, de trois dynamiques. La première, c'est les appels d'offres qui sont lancés par l'Union européenne pour demander à des équipes de recherche dans différents pays et qui vont s'associer de traiter des sujets qui sont jugés importants, intéressants, cruciaux pour la science par l'Union européenne. Donc en fait, il y a un appel à projet qui demande à des équipes de se constituer sur des thèmes particuliers. Et donc là, on était dans un appel à projet sur la sécurité et il y avait un item de cet appel à projet consacré aux violences conjugales. Le deuxième élément, deuxième dynamique, c'est des réseaux de chercheurs, de chercheuses qui souvent existent déjà en partie, c'est-à-dire qu'on s'était rencontrés autour d'une table dans un congrès de criminologie avec quelques collègues à l'époque allemands, britanniques, si mes souvenirs sont bons, et finlandais. Et en fait, on voulait collaborer ensemble sur un projet européen. On avait envisagé les violences conjugales. On a décidé vraiment de travailler là-dessus parce qu'il y avait cet item dans le projet de l'Union européenne. Donc, on avait l'embryon en fait, d'un consortium, d'un groupe de recherche européen. Après, par différentes voies, en fonction des réseaux des uns et des autres, on a complété le consortium. Au départ, on était 4 pays et puis on est monté à 8. Et troisième dynamique, en fait, c'est l'Union européenne elle-même qui essaie de susciter la constitution de consortiums avec des forums qui sont spécifiques pour ça. Il y a des points de contact nationaux qui sont censés mettre en relation les chercheurs et les équipes françaises avec des équipes internationales. Donc en fait, l'Union européenne elle-même organise, facilite la constitution de consortiums.
C'est intéressant parce que ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que les projets Improdova et Improve n'ont pas été lancés par une affinité de votre part ou un passif par rapport au sujet de recherche qu'ils impliquent, mais qui ont été au contraire impulsés par le fait qu'il y avait un appel sur ces thématiques-là. Et qu'en fait, vous vous êtes regroupés par la force des choses autour d'un sujet qui, comment dire, une porte qui s'est ouverte à vous, sans avoir au préalable, en fait, eu cette idée de travailler sur le domaine des violences conjugales. C'est bien ça ?
On avait envisagé le sujet dans une discussion qu'on avait eue bien avant de déposer le premier projet. On s'était demandé sur quel thème on pouvait travailler et on avait envisagé les violences conjugales. Et il se trouve qu'il y avait cet item, mais en fait, il y avait énormément d'autres items dans ces projets sur la sécurité. Il y avait des dizaines d'items, donc tout le monde, finalement, pouvait y trouver matière à développer une collaboration. Et donc, c'est une rencontre vraiment entre ce qu'on avait envisagé de faire et puis ce que l'Union européenne était prête à financer. Donc, on ne peut pas dire que ça nous a été imposé. Voilà, l'idée préexistait à l'appel à projet de l'Union européenne.
Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler à l'échelle européenne sur ce sujet-là plutôt que, par exemple, une échelle nationale ?
Je vais parler surtout pour les sciences sociales parce que les différentes disciplines ont toutes des problématiques différentes de ce point de vue-là. En sciences sociales, c'est particulièrement intéressant parce que la comparaison internationale, c'est un des moyens privilégiés d'approfondir l'analyse et la compréhension des phénomènes qu'on étudie, puisqu'on compare ce qui se passe dans différents territoires. Et comme la situation est différente dans chaque pays, on a des variables qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et du coup, on peut essayer de comprendre les effets de ces différentes variables sur le phénomène qu'on étudie. Donc, il y a l'aspect comparaison. Un autre aspect, c'est qu'on a une plus grande diversité de situations à étudier quand on étudie 8 pays que quand on étudie un seul, même s'il y a des diversités territoriales qui peuvent être importantes dans un même pays. Un autre intérêt de collaborer entre les pays, c'est à partir du moment où on est dans des projets qui visent à apporter de l'innovation et à mettre à jour les solutions qui existent à des problèmes comme les violences conjugales, on va collecter des bonnes pratiques dans les différents pays, donc on va avoir un plus grand éventail, une plus grande diversité de solutions. C'est aussi une opportunité d'échanger des expériences sur, par exemple, la façon dont on va piloter la mise en place de ces solutions, les mettre en œuvre. Donc en termes d'innovation, la diversité des points de vue et des expériences, c'est clairement un enrichissement.
Donc c'est vrai que vous êtes attaché en fait beaucoup plus à ces solutions que à l'étude sociologique de pourquoi ces violences conjugales, si j'entends bien.
Non, c'est des projets qui ont la double dimension de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Au début du projet, on avait des phases de recherche, comme on aurait fait de la recherche fondamentale, si on n'était pas dans ce type de projet, c'est-à-dire aller faire des interviews, des enquêtes. Là, par exemple, dans l'actuel projet, on fait des interviews pour comprendre les barrières, les obstacles auxquels se heurtent les victimes de violences conjugales, notamment les victimes qui appartiennent à des groupes sociaux particulièrement défavorisés, comme les minorités sexuelles, les migrants et les réfugiés, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc, quel type d'obstacles ces victimes vont rencontrer dans leur interaction avec les administrations, les associations qui sont censées leur apporter un soutien en tant que victimes de violences conjugales. Et ça, donc, c'est un travail de recherche tout à fait classique. On se base sur la littérature scientifique internationale, on essaie d'approfondir. Et par ailleurs, plus tard dans le projet, alors à la fois, on va étudier les solutions. Donc ça aussi, c'est un travail de recherche classique en sciences sociales, donc étudier l'existant. Et par contre, un travail d'essayer d'identifier des bonnes pratiques, de modéliser des solutions, de voir ce qui existe dans un pays qu'on pourrait transférer dans d'autres pays. Donc voilà, il y a un travail plus d'innovation. C'est des projets qui sont de recherche et d'innovation, qui là ne seraient pas forcément dans un projet de sciences sociales classiques, comme ceux qui sont financés par l'Agence de la recherche française, même si de plus en plus, les organismes de recherche cherchent à promouvoir l'innovation. Hein.
Dans ce genre d'étude, qui est une étude qui touche à la sociologie, on a des publics différents. On imagine qu'il y a des questions culturelles. Est-ce que vous avez travaillé avec les mêmes méthodes dans ces différents pays quand vous faites de la recherche du terrain, ou effectivement vous venez utiliser des méthodes avec des questions qui diffèrent un peu, ou est-ce que vous avez vraiment des questions qui sont les mêmes pour chaque pays ?
Alors, c'est une excellente question. Ce qui est important de dire là, c'est que le domaine des violences conjugales, c'est un domaine à la fois les manières de voir, les manières d'aborder les problèmes et les manières de les traiter sont extrêmement homogénéisées au niveau international. L'étude des violences conjugales et la réflexion autour des manières de lutter contre, ça part en gros des mouvements féministes américains dans les années 50, 60, 70. Et les réflexions de ces mouvements vont être portées très très vite dans les instances internationales. Il y a des instances de l'ONU qui s'intéressent depuis très longtemps à l'égalité homme-femme et à la lutte contre les violences conjugales. Elles ont offert une caisse de résonance à cette lutte des mouvements féministes contre les violences conjugales dans le monde entier. Et il y a des standards sur la façon de lutter contre les violences conjugales qui sont extrêmement développés. Il y a des manuels entiers, il y en a des dizaines. Donc, à la fois la façon d'analyser, d'évaluer le problème et de le traiter est très internationalisée. Pour l'Union européenne, il y a la Convention d'Istanbul de 2010, je crois que c'est 2010 ou 2011, qui a été ratifiée, je crois, en 2011, qui, là aussi, définit des standards à la fois pour comprendre et pour lutter contre les violences conjugales. Donc, le cadre institutionnel dans les différents pays, il est quand même assez semblable, même s'il y a des différences législatives qui existent encore, mais il y a des recommandations du Conseil de l'Europe, y compris sur les évolutions de législation, ce qui fait que le cadre législatif est aujourd'hui assez homogène dans les différents pays européens. Et du côté des violences elles-mêmes, en fait, les ressorts de la violence conjugale sont pas différents d'un pays à l'autre. Le ressort principal, c'est la volonté ou le désir de domination et de contrôle d'un des deux partenaires dans un couple qui va se traduire par des violences. C'est pour ça qu'on retrouve des violences conjugales dans tous les pays, dans toutes les classes sociales. Donc voilà, entre un cadre de politique publique qui est très internationalisé et un phénomène qui est assez commun à toute l'humanité, il n'y a pas tellement de problèmes de différences culturelles ou institutionnelles qui empêcheraient de se poser les mêmes questions dans les différents pays.
Donc ce que j'en entends, c'est que ce soit au niveau du fond, de l'objet de la recherche ou de la façon en fait, dont vous travaillez pour étudier ces sujets-là, on se retrouve avec une situation qui est finalement relativement homogène d'un pays à l'autre. Mais alors, concrètement, le fait qu'il y ait autant de pays qui soient impliqués dans vos travaux, comment ça se traduit vis-à-vis de votre recherche, le fait d'avoir autant de disparités géographiques et institutionnelles ?
Par exemple, le questionnaire posé aux victimes, c'est le même dans tous les pays. Les tableaux qu'on remplit pour apporter des réponses aux questions de recherche, c'est les mêmes pour tous les pays. C'est-à-dire qu'on pose les mêmes questions partout. L'enjeu du travail, c'est vraiment par rapport aux variations locales, c'est-à-dire la réponse, il y a toujours des mairies, par exemple, dans différents pays qui vont avoir des bonnes idées. Et on trouve plus de bonnes pratiques, par exemple, en étudiant 8 pays qu'en étant dans un seul. Donc ouais, il y a cet enjeu-là. Et après, il y a quand même une difficulté inhérente à travailler entre des gens de plusieurs pays. Alors je dirais que la première difficulté qu'on a eue et qui demande plusieurs années pour être surmontée, il y a une difficulté au niveau des langages, c'est-à-dire que l'essence des mots, y compris scientifiques, varie, alors pas fondamentalement, mais souvent légèrement entre les chercheurs de différents pays. Et ça prend du temps pour s'assurer qu'on parle la même chose quand on dit un même mot. Au début du projet, il y avait parfois des malentendus. On pensait qu'on allait dans la même direction, puis on réalise au bout d'un moment qu'on ne va pas dans la même direction, que chacun imaginait quelque chose, mais que n'avait pas réussi en fait, à faire passer l'idée à l'autre. Donc il y a tout un travail d'acculturation réciproque pour homogénéiser le vocabulaire, être sûr que voilà, on s'entend suffisamment sur les mots. Sur le travail scientifique lui-même, non, il n'y a pas trop de différence, c'est-à-dire que les méthodes, ça reste les mêmes. Donc c'est plus autour des objectifs ou des hypothèses ou des problématiques que là, ces problèmes de langage peuvent rendre la compréhension difficile, surtout au début du projet, parce qu'après, on l'a surmonté tout ça en travaillant ensemble, on finit par résoudre ce type de différence. Après, il y a une difficulté qui est liée au fait qu'il faut faire travailler un grand nombre de gens ensemble, puisqu'on est une cinquantaine de personnes actives dans le consortium, dont tout le monde n'est pas chercheur. Hein. Il y a aussi les associatifs, il y a des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux, des médecins. Donc il faut coordonner des gens qui sont de cultures professionnelles différentes. Je pense que les différences de culture professionnelle sont en fait plus grandes que les différences de culture nationale, en tout cas dans ce domaine. Collaborer avec un sociologue finlandais, par exemple, ou autrichien, est très facile. Mais collaborer avec un professeur de médecine allemand est plus difficile si on est sociologue. Mais en fait, c'est plus lié à la différence de vision et d'approche entre un médecin et un sociologue. Du coup, il y a un cadre d'organisation qui est très, très sophistiqué et assez contraignant qui est proposé par l'Union européenne pour qu'on réussisse en fait, à coordonner des gros consortiums. Donc, on a des réunions très fréquente. Donc si vous voulez, le projet, il est divisé en ce qu'on appelle des work packages, c'est-à-dire il y a des grands groupes de tâches. Dans le projet, il y en a 4. Donc il y en a un de recherche fondamentale, il y en a un pour fabriquer des outils de formation, il y en a un pour fabriquer un chatbot pour les victimes, il y en a un pour fabriquer des aides à l'amélioration des politiques publiques. Chaque work package, il y a des tâches. En général, il y en a 3, 4, 5... et avec une personne responsable de chaque work package, une personne responsable de chaque tâche. Pour chaque tâche, on a des réunions régulières, toutes les semaines, toutes les deux semaines. Donc il y a énormément de visioconférences entre les personnes qui travaillent dans le projet, et puis des réunions de coordination à l'échelle d'un work package, et puis des réunions de coordination à l'échelle de tout le projet. Donc on passe beaucoup de temps à se coordonner dans ce type de réunion et à ajuster ce que chacun fait dans chaque pays. Donc, par exemple, là, on est en train de faire une campagne d'interview auprès des victimes. Et donc, on a un guide d'entretien commun, on a des règles de déontologie communes. On s'est formé en commun pour interviewer des victimes parce que ça demande une approche sensible au traumatisme qu'ont vécu ces personnes. Donc, on s'est quand même créé un espèce de fond commun, de pratique, de savoir-faire, de manière de voir. Mais après, il faut faire des campagnes d'entretien dans chaque pays en même temps, avec une façon de représenter nos résultats qui fait qu'ils vont être comparables. Et ça demande beaucoup de coordination.
Il y a une question qui est la question du temps, qui me semble un peu fondamentale. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous répondez à des appels d'offres au niveau européen. Comment est-ce que ça se passe, en fait, justement, cette gestion du temps entre le temps de la carrière académique française et le temps de la recherche européenne?
Les projets de recherche sur appel d'offres, alors que ce soit des projets européens ou des projets nationaux comme ceux de l'Agence nationale de la recherche, sont faits sur des temps qui correspondent à peu près à des échelles de 3, 4, 5 ans. Il y a un temps de préparation pour répondre à l'appel d'offres. Dans le cas du premier projet sur les violences conjugales, Improdova, ça a été 2 ans de travail en gros pour monter le projet. Alors pas à plein temps, mais on a collaboré de manière épisodique sur 2 ans avec un premier projet qui a été déposé qui n'a pas marché. Après, la deuxième fois qu'on l'a déposé, ça a fonctionné. Et tout ça, c'était du temps d'apprentissage aussi pour pouvoir travailler en commun. Après, il y a le temps de réalisation du projet où là, on peut dire quand même la spécificité des projets européens, c'est qu'ils sont prenants. C'est-à-dire que pour remporter l'appel à projet, il faut quand même promettre beaucoup de choses. Et donc, ces choses, il faut après les réaliser et la réalisation, elle est contrôlée et obligatoire. C'est-à-dire, en gros, si on s'engage à produire quelque chose, on est obligé de le produire. Ce qui peut être moins le cas dans d'autres types d'appels à projet. Si on fait des déclarations d'intention qui ne sont pas suivies des faits, c'est moins sanctionné. Donc, c'est très prenant. Dans les faits, les contrats de recherche européens et la recherche académique qu'on réalise dans le cadre d'une carrière universitaire classique ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'y a pas tout à fait les mêmes priorités, même s'il n'y a pas non plus le grand écart, puisque ça reste une activité scientifique. Dans le cas des projets européens, surtout des projets de recherche et d'innovation comme le sont les projets auxquels je participe, il y a un impératif qui est beaucoup plus important de diffuser les résultats auprès du grand public, de produire des innovations utiles pour les politiques publiques et globalement le but c'est d'améliorer la vie des citoyens européens plus que de produire de la connaissance scientifique, même si ça fait partie du projet que de produire cette connaissance. Dans le cas d'une carrière académique nationale, les enjeux, ça va être de produire des articles dans des revues à comité de lecture, donc des publications reconnues par les pairs, et puis d'obtenir une reconnaissance de la part des instances et des élites académiques de son pays, et donc de passer du temps à valoriser ses travaux en direction de ses élites. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, et donc... Si on participe à ce type de projet, il faut faire des choix. Alors la situation peut varier selon le type de participant. Donc pour des chercheurs comme moi qui sont dans des organismes de recherche, oui, il peut y avoir une forme de tension entre, on va dire, le travail qu'exige l'Union européenne dans le cadre de ces projets et puis les attentes du CNRS. Mais cette tension est quand même pas si grande que ça parce que le CNRS quand même valorise la participation à ce type de programme. Par contre, il y a de plus en plus de chercheurs et de centres de recherche au sein de l'Union européenne qui vivent quasiment entièrement de ce type de projet européen. Et on a donc de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui dépendent des appels à projets pour financer leur salaire et qui passent leur vie à chercher ce type de projet. Il y a une difficulté qui peut venir aussi du fait que monter ce type de projet est très technique, donc ça demande un apprentissage important pour être capable de remporter. Il peut y avoir parfois une frustration qui est importante de la part de chercheurs qui sont plutôt dans des logiques de carrière au sein du cursus académique national, parce qu'ils déposent des projets qui ne sont pas retenus. Donc là, ça va se traduire par un discours qui peut être un discours hostile aux projets de l'Union européenne, qui vont être présentés comme pas de la vraie science, trop orientés vers la pratique ou trop influencés par les objectifs de l'Union européenne, etc. Pour moi, ça vient surtout de cette nécessité d'apprendre, et ça demande beaucoup de temps et d'énergie, à répondre à un appel d'offres européen. Pour ces chercheurs qui ne font que ça, ils ont des taux de succès qui sont quand même importants. Ça crée une espèce de division entre des gens qui sont plutôt investis dans leur environnement académique national et de plus en plus des gens qui sont plutôt investis dans cet environnement académique européen qui est plus orienté vers la recherche appliquée. Après, il n'y a pas que des projets innovation dans l'Union européenne, et il y a aussi les fameuses European Research Council, les ERC, qui là sont orientées recherche fondamentale. Et pour un chercheur français ou allemand ou d'un autre pays européen, avoir ce type de projet est une des plus grandes consécrations académiques, un peu comme, bon c'est un peu moins, mais un peu comme avoir un prix Nobel. Donc en fait, il y a une tellement grande diversité de cadres que c'est difficile de donner une réponse univoque. Mais pour ces projets d'innovation, ça peut, oui, ça peut créer des tensions avec des impératifs de carrière. Parce que quand on fait ça, on n'a pas forcément le temps, par exemple, de s'investir suffisamment dans les exigences et les épreuves d'une carrière académique nationale.
Et justement, en parlant de temps, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière pour qu'on puisse se raccrocher au projet dont on parlait aujourd'hui, le projet Improve Improdova. Vous avez évoqué la nécessité de rendre des comptes sur les résultats des recherches européennes. Dans le cas du projet Improdova et du projet Improve, quel a été le produit final de cette recherche pour pouvoir rendre compte des résultats que vous avez trouvés ?
Alors, le projet Improve, il n'en est qu'au début, donc on peut regarder ce qui s'est passé pour le projet Improdova. Les productions scientifiques sont recensées. On fait un rapport sur les publications académiques classiques qu'on a faites, mais aussi les publications grand public, toute forme de valorisation scientifique auprès des acteurs de la lutte contre les violences conjugales. Par exemple, on avait organisé plusieurs conférences en France avec les professionnels où on présentait les résultats du projet. Donc tout ça, ça rentre en compte dans la valorisation du projet. On rendait compte là-dessus. Par exemple, le projet Improdova donnait lieu à la réalisation d'une plateforme de formation en ligne qui est en anglais et en allemand pour les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les policiers qui travaillent sur les violences conjugales. Donc ils trouvent des modules de formation, des informations, des petites vidéos. Donc ça, ça fait partie de la réalisation du projet. En France, on a fait un manuel de 80 pages à destination surtout des policiers et des policières sur comment travailler à la lutte contre les violences conjugales, donc comment accueillir les victimes, comment réagir quand on est sur une scène de violence, comment monter des partenariats pour travailler sur les violences conjugales avec d'autres professionnels, comment manager des équipes qui travaillent sur les violences conjugales, comment faire une enquête judiciaire. Donc on aborde un peu tous les aspects du travail professionnel. L'Union européenne va prendre en compte tout type de réalisation scientifique, mais aussi pratique et professionnelle. Le but étant à la fin, non pas d'en savoir plus sur les violences conjugales, mais d'améliorer la vie des citoyennes, surtout puisque ça frappe essentiellement les femmes européennes. Donc en fait, diminuer l'impact des violences conjugales sur les citoyennes européennes. Ça va bien au-delà de la connaissance scientifique.
Où est-ce qu'on peut retrouver justement, pour celles et ceux qui seraient intéressés, le fruit de ces recherches ?
Eh bien justement, donc, ça fait partie de ce qu'on devait faire dans le projet d'avoir un site. Donc il y a un site improdova.eu qui donne accès aux plateformes en ligne. Il y a tous les rapports qu'on a fait dans le cadre du projet. Alors bien sûr, et c'est peut-être une des limites des projets européens, tout est en anglais. Voilà. Donc il faut parler l'anglais.
Ou écouter Impact.
Ou écouter Impact, oui. Ou lire le manuel français.
À destination des policiers, mais qui donne aussi, j'imagine, voilà, une bonne idée de pratique.
Mais il faut
des
dire que de nos jours, les traducteurs automatiques permettent de.
Sont quand même assez puissants.
Impact saison 4, épisode 6, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que l'épisode vous a plu, et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Camille Duty, qui a travaillé sur une recherche participative dans le domaine de la protection de l'enfance.
À très vite dans Impact, le podcast pour comprendre les sciences sociales.